Bonjour à tous et à toutes. Que la grâce et la paix de notre Seigneur soient sur nous tous. On va parler ce matin de la deuxième lettre aux Éphésiens. Où est-ce qu'elle est, cette deuxième lettre aux Éphésiens? Alors, la deuxième lettre aux Éphésiens, c'est pas Paul qui l'écrit, c'est Jean qui l'écrit, donc justement dans la lettre aux sept églises, et ça commence par Éphèse. Chapitre 2 et 3 de l'Apocalypse. Donc, l'Apocalypse est un livre qui est plus simple qu'il n'y paraît, en fait, hein, puisqu'il y a le passé, le premier chapitre, deuxième et troisième, il y a le présent, et ensuite, à partir du chapitre 4, il y a le futur, et bien sûr le futur glorieux. Et on a souvent peur de l'Apocalypse, et même les lettres des sept églises qui restent la partie, là, peut-être, pour une première lecture, la plus accessible. En fait, il y a trois façons différentes d'envisager ces lettres. Ce sont des églises qui ont réellement existé. Il y a eu une église à Éphèse, une église à Laodicée, une église à Thyatire, à Philadelphie. Et le message est destiné à elles. Ensuite, le message est aussi destiné à l'église d'aujourd'hui. Parce qu'il y a eu sur place. Parfois les mots se bousculent. Hein. Et ça a bien sûr une valeur prophétique, puisque l'ensemble de cette église représente l'église universelle dans son évolution. L'église d'Éphèse, c'est l'église apostolique, la première église. L'église de Laodicée, la dernière église, l'église apostate. Alors, on va prendre Apocalypse 2 à partir du verset 1. On va commencer par lire. La parole est faite pour être lue, avant tout. Donc je lis Apocalypse 2 à partir du verset 1 jusqu'au verset 7. Écrit à l'ange de l'église d'Éphèse. Voici ce que dit celui qui tient les sept étoiles dans sa main droite, celui qui marche au milieu des sept chandeliers d'or. Je connais tes œuvres, ton travail et ta persévérance. Je le sais, tu ne peux supporter les méchants. Tu as éprouvé ceux qui se disent apôtres et ne le sont pas, et tu les as trouvés menteurs. Tu as de la persévérance, tu as souffert à cause de mon nom, et tu ne t'es pas lassé. Mais j'ai contre toi que tu as abandonné ton premier amour. Souviens-toi donc d'où tu es tombé. Repens-toi et pratique tes premières œuvres. Sinon, je viendrai à toi et j'écarterai ton chandelier de sa place, à moins que tu ne te repentes. Cependant, tu as ceci pour toi, c'est que tu as de la haine pour les œuvres des Nicolaïtes, pour lesquelles moi aussi, j'ai de la haine. Que celui qui a des oreilles écoute ce que l'Esprit dit aux églises. Au vainqueur, je donnerai à manger de l'arbre de vie qui est dans le paradis de Dieu. Le Seigneur bénisse sa parole. Les promesses des sept églises sont absolument extraordinaires. Alors, l'église d'Éphèse, donc, juste une petite introduction. On pourrait rien sur le verset 1, c'est une étude de 2 heures. Hein, mais pour que vous ayez le contexte, c'est Jean qui est enseigné directement par notre Seigneur. Alors, écrit à l'ange de l'église d'Éphèse, l'ange, le mot qui veut dire ange, veut dire messager. Alors ça peut être un messager divin, mais ici, il semblerait que ce soit plutôt le dirigeant de l'église, le pasteur ou en tout cas celui qui en est responsable. D'accord ? Donc c'est très important, il écrit au dirigeant pour qu'ensuite il en fasse part à tout le monde. Les sept étoiles, le chiffre 7 veut dire la complétude, c'est-à-dire que tout est complet, tout est fini. Les sept étoiles représentent l'autorité de notre Seigneur. Les sept chandeliers d'or, alors là, c'était référence à l'Ancien Testament, bien sûr, mais l'or, c'est pour dire que Christ est Dieu, et la lumière, c'est le Saint-Esprit. Ici, Christ est le grand prêtre, celui qui a l'autorité, et qui est juge sur la terre. Donc, il a autorité pour dire tout ça à l'église d'Éphèse. Alors, Éphèse, c'est où ? Actuellement, Éphèse, c'est sur la côte ouest de ce qu'est la Turquie actuelle. Cette église, l'église apostolique, a été fondée par Paul. Timothée est officier, et Jean y est passé. Donc imaginez les bénédictions. L'apôtre Paul lui-même, il les connaissait, il a fondé l'église. Timothée y est officier pendant un certain temps, et Jean y est même passé. Donc, être mieux enseigné, mieux béni que cette église, difficile à imaginer. Jean écrit vers 90-95, sachant que Paul, alors c'est à quelques années près bien sûr, hein, Paul y a séjourné pour la première fois vers 52, c'est-à-dire, 25 ans ça fait une génération, c'est même pas deux générations, c'est-à-dire ceux qui ont connu Paul directement, en tout cas pour un certain nombre, sont sans doute encore vivants. Mais le problème de cette église, et on le voit au verset 4, « Mais j'ai contre toi que tu as abandonné ton premier amour. » Et c'est le titre du message « Où est ton premier amour ?» Alors, il faut d'abord préciser ce que c'est que le premier amour. Le premier amour en français, ça peut être une jeune fille ou un jeune homme qu'on a connu quand on avait 17 ou 18 ans et qu'on a oublié. Ça n'est pas ça. Le premier amour, c'est, et on va découvrir ça tout à l'heure, mesdames, vous allez apprendre quelque chose sur vos maris, de ce que signifie le premier amour, parce que c'est vraiment une comparaison avec le mariage qui est tout à fait saisissante. Alors, l'église d'Éphèse, qu'est-ce qui se passait à Éphèse? Alors, Éphèse, c'était une ville qui se trouvait, c'était une ville portuaire. Elle ne l'est plus maintenant. Maintenant, elle se trouve à 10 km de la mer. Du fait de l'embasement, il y a du limon qui a été apporté, qui a reculé la mer. Ville assez importante, ville portuaire, donc il y avait beaucoup de passages, et c'était le temple d'Artémis, la diane des Éphésiens. Alors, qui était cette diane? C'était une déesse païenne, déesse de la fertilité. Donc, vous imaginez, le culte consistait, c'était des vastes orgies, c'était de la débauche, et ce que je vais dire est assez dur, mais donc il faut l'entendre, à une époque où la contraception n'existait pas, les enfants qui naissaient étaient bien souvent sacrifiés aux idoles. Donc c'était vraiment des pratiques barbares. Et donc c'est, d'ailleurs, en plus le temple d'Artémis était l'une des sept merveilles du monde. On raconte qu'il y avait des colonnes qui faisaient 20 mètres de haut. Ces colonnes maintenant se trouvent dans un marécage. Donc, c'est pas dans le message, mais c'est une parenthèse. Si fort que puisse paraître le péché, de toute manière, Dieu est le plus fort. Parce que le temple d'Artémis, c'était vraiment un énorme truc, et maintenant, il en reste quelques cailloux dans un marécage. Alors, et pourtant, Paul est allé là-dedans. Alors, il y est allé, il n'y est pas allé tout seul. Ça veut dire aussi que certaines tâches, il ne faut pas se lancer à corps perdu, tout seul. Attention, 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 il faut prier et avoir des gens avec soi. Et certains sont appelés à certaines choses et d'autres pas. Alors, cette église nous pousse à revenir à notre premier amour. Alors, le premier amour, c'est l'amour qu'on avait pour le Seigneur au moment de la conversion. Alors, on ne le connaissait pas encore bien, on le connaissait suffisamment pour savoir que il est fils de Dieu, il est mort pour nos péchés, il nous sauve par son sang. Il est ressuscité, il nous donne sa vie. On connaissait l'essentiel. Alors, est-ce qu'on se souvient de notre premier amour? Alors, avec le mariage, le premier amour, et c'est là où, mesdames, vous allez apprendre quelque chose. Le jour du mariage, le mari, le futur mari, n'a pas vu sa future femme en robe de mariée. La première fois qu'il la voit, elle jette un regard sur lui, c'est ça le premier amour. Messieurs, si vous dites que vous avez oublié, je ne vous croirai pas. Le regard de votre épouse qu'elle a posé sur vous quand elle était en robe de mariée, le premier regard, franchement, ah, j'en ai presque des frissons, on s'en souvient, on se dit, mais et c'est pour moi qu'elle s'est faite comme ça. Qu'est-ce qu'elle est belle. Je le savais, mais là, et c'est ça le premier amour. À ce moment-là, pour tout le reste du monde, on ne s'en va pas. Hein. C'est ça le premier amour. Avec le Seigneur, c'est la même chose. On éprouve ça, et puis, ça s'en va un peu. Alors, notre Seigneur, par l'intermédiaire de Paul, loue les Éphésiens. Ce sont vraiment des gens qui sont venus. Regardez, là c'est Épître aux Éphésiens, chapitre 1, 15 à 18. Éphésiens 1, 15 à 18. C'est pourquoi, moi aussi, ayant entendu parler de votre foi au Seigneur Jésus et de votre amour pour tous les saints, je ne cesse de rendre grâce pour vous. Je fais mention de vous dans mes prières, afin que le Dieu de notre Seigneur Jésus-Christ, le Père de gloire, vous donne un esprit de sagesse et de révélation, qui vous le fasse connaître qu'il illumine les yeux de votre cœur afin que vous sachiez quelle est l'espérance qui s'attache à son appel, quelle est la glorieuse richesse de son héritage au milieu des saints. Donc cette Église est bénie, est bénie. Et notre Seigneur lui-même le leur dit, parce que le Seigneur est juste. Il dit les choses comme elles sont, en n'oubliant rien. Regardez verset 2 dans l'Apocalypse. C'est notre passage de base. « Je connais tes œuvres, ton travail et ta persévérance. » Donc là aussi, il reconnaît, ils sont travailleurs, qu'ils font beaucoup pour l'œuvre et qu'ils sont persévérants. La persévérance suppose une difficulté. Si on persévère, ça veut dire que c'est pas facile, qu'on continue et on continue encore. Donc, ils ne sont pas toujours dans la facilité. « Je le sais, tu ne peux supporter les méchants, tu as éprouvé ceux qui se disent apôtres et ne le sont pas, et tu les as trouvés menteurs. » Donc là aussi, ils sont travailleurs, ils détestent le mal, ils sont attachés à la saine doctrine. Je sais que tu ne peux supporter les méchants, tu as éprouvé ceux qui se disent apôtres. Ce n'est pas parce que quelqu'un se pointe en disant « je suis un apôtre » qu'il faut le croire. Eux ne le croyaient pas. Ils avaient du discernement et le mal en horreur. Donc, on pourrait se dire « mais donc notre Seigneur a à le reprocher, parce que là, il ne fait que des compliments. Il est parfaitement juste. Il est le roi, il se comporte avec justice. » Et là aussi, il montre qu'il sait. Juste avant, au verset 1, vous avez « voici celui qui tient les sept étoiles dans sa main droite, celui qui marche au milieu des sept chandeliers d'or. » Ça veut dire qu'il est au milieu de l'Église, il a parfaitement conscience de ce qui s'y passe, il le sait. Et extérieurement, très franchement, si on arrêtait la lecture là, mais c'est l'Église parfaite. C'est l'Église parfaite. Ils ont des œuvres, ils détestent le mal, ils sont attachés à la doctrine, ils excluent les faux apôtres. Fantastique. Tu as de la persévérance, verset 3. Tu as souffert à cause de mon nom et tu ne t'es pas lassé. Là, ça va même encore plus loin. C'est que le Seigneur reconnaît qu'ils ont eu d'énormes difficultés, mais ils ne se sont pas lassés. Donc leur foi, si on tient dans la difficulté, c'est qu'a priori la foi est bonne, que la foi est forte. Tu ne t'es pas lassé. Donc, au début, ça n'a probablement pas dû marcher comme ils l'auraient voulu. Mais ils ont insisté, insisté, insisté. Donc, encore une fois, c'est une Église qui paraît absolument parfaite. Et pourtant, c'est là que le « mais ». Il y a beaucoup de « mais » dans la parole. « Mais j'ai contre toi que tu as abandonné ton premier amour. » Tu as abandonné. Alors, le mot veut dire « délaisser », »,« laisser de côté ». Le texte ne dit pas pourquoi, parce qu'on n'a pas à le savoir. Ils ont abandonné, ils ont perdu leur premier amour. C'est un résultat. Alors, ça veut dire quoi concrètement? Ça veut dire que, ben, il y a une habitude. Mais remarquez aussi le côté qu'ils ont abandonné un amour, mais en quelques années, en quelques dizaines d'années. Ils sont passés de la prédication de Paul, de Timothée, de Jean. Ils font des œuvres, mais c'est un peu par habitude. Malheureusement, dans l'Église actuelle, ça se passe parfois comme ça. Souvenez-vous, au moment du confinement, pendant plusieurs semaines, les églises sont fermées. Alors, ça s'est beaucoup fait aux États-Unis. Il y a des immenses églises, les fameuses méga-churches, qui ont fait des cultes en ligne qui étaient... C'était bien tourné, c'était vraiment formidable. Du coup, les frères et les sœurs ont pris l'habitude de voir le culte à la télé. Quand les églises ont rouvert, ben, ils sont restés dans leur fauteuil. Au lieu de partir dimanche matin, de s'habiller, on restait en pyjama, la tasse de café à la main. Alors oui, on écoutait une prédication, mais on désertait. On désertait. Et certains en ont profité pour déserter tout court. Donc on est concerné. Et il faut faire extrêmement attention en se disant « Ah oui, mais moi non. Si la Bible nous le dit, c'est que ça nous concerne. » On n'était pas concerné maintenant, mais... L'habitude, dans le couple aussi, malheureusement ça existe. Notre Seigneur est dur, mais il est franc. Il ne fait pas de circonvolution, il ne cherche pas à être politiquement correct. Il dit les choses comme elles sont. Il parle d'abandon. tu as abandonné ton premier amour. C'est pas simplement tu t'es lassé, non, non, tu as abandonné ton premier amour. Le mot utilisé pour amour, c'est agapé. Donc c'est vraiment un amour qui est très fort, c'est l'amour pour le Seigneur. Il y a un paradoxe, parce qu'ils sont persévérants. Ils sont persévérants, mais quelque part, le cœur n'y est pas. Ce que tu fais, c'est bien, mais pourquoi tu le fais? Est-ce que tu le fais, on va à l'église parce qu'il faut aller à l'église. Est-ce qu'on se lève dimanche matin en se disant « chouette, c'est dimanche, je vais pouvoir aller à l'église ». Il y en a qui n'ont pas cette grâce et cette chance. Est-ce qu'on se lève en se disant « j'aime bien rester au lit hein. ». Alors, on peut être légitimement fatigué, hein, mais aller à l'église, on a, en plus ici, on a demandé à l'église de Paris. L'église de Paris est beaucoup plus petite. Là, il y a des très beaux locaux, où il ne fait pas très chaud en ce moment, ça c'est momentané, mais on a des très beaux locaux, on devrait avoir envie. Et pourtant, les Éphésiens, c'est la même chose. Ils sont très religieux, ils sont très religieux, mais le cœur n'y est pas. Il n'y a pas de ferveur. Et nous, est-ce qu'on a la ferveur? Est-ce que la foi, elle est persévérante ou elle est découragée? C'est le contraire. Est-ce que... C'est pas toujours facile, hein. Les jeunes chrétiens, il faut leur dire clairement, la foi n'est pas toujours facile. Être chrétien dans le monde, c'est marcher à contre-courant. Ben, c'est nager, pardon. Nager à contre-courant. Nager à contre-courant, on n'y arrive pas tout seul. Sans Christ, on n'arrive pas. Est-ce qu'on a une relation nourrie? Vous savez, la prière, c'est une conversation, hein. Quelqu'un dit, mais je ne sais pas prier. Ben, tu sais parler. Tu sais parler à ton ami. Ben, alors tu sais prier. Prier, c'est parler, c'est comme Moïse, qui parlait à Dieu comme on parlait à un ami. Alors, mais c'est pas un pote, hein, mais c'est un ami. Est-ce qu'on est amoureux? Ou est-ce qu'on est vieux couple? Au début du mariage. Bon, là je rentre du travail, donc avant ma femme, mais c'est je ne sais rien. Elle rentre pas, j'avais envie de la voir. Et vous aussi, messieurs. Ou le contraire aussi, hein, d'accord. Est-ce que on est encore amoureux? Est-ce qu'on est David ou est-ce qu'on est Salomon? David, il avait combattu pour le Seigneur. Et il donne à Salomon un royaume florissant. Et Salomon, qui a écrit beaucoup de choses, grande sagesse. Et pourtant, à la fin de sa vie, il me semble, si on compte les femmes et les concubines, ça fait plus de 1000 femmes. D'accord? Et il avait construit des choses pour ces femmes d'origine païenne. Aïe, aïe, aïe. Trop souvent, la foi devient routinière. Mais Dieu s'adresse à nous aussi dans l'ordinaire de nos vies. On n'a pas toujours, on n'est pas toujours au sommet spirituel. Nous devons prier pour qu'il nous éclaire. Il faut faire attention parce qu'on peut se relâcher. Et il y a une maladie propre aux chrétiens. J'ai trouvé ça sur Internet. C'est un certain Lucien Clerc qui l'a étudié. C'est un pasteur. Hein. Ça s'appelle la domingite. Qu'est-ce que c'est que la domingite? Qu'est-ce que c'est que la domingite? Alors, la domingite, c'est une maladie qui concerne uniquement les chrétiens. C'est-à-dire, beaucoup de gens, il existe une maladie qui afflige l'homme et la femme, précisément le jour du repos dominical. La domingite. Dans certains cas, c'est chronique, dans d'autres, c'est aigu. Alors, elle s'attaque essentiellement aux membres et sympathisants d'église. Elle s'attaque dimanche. Elle se manifeste sous la forme de symptômes variés. Mais on ne perd pas le sommeil, on ne perd pas l'appétit, et ça ne nous empêche pas de nous divertir. Elle attaque particulièrement à certaines heures. Le dimanche, vers 8-9 heures, la personne se sent bien tous les jours de la semaine, et même au début du dimanche. Mais quand arrive l'heure du culte, la maladie terrasse la personne et on ne peut plus y aller. On a ça. Alors, les malades n'appellent pas le médecin lorsqu'on souffre de ces crises. Et si on ne guérit pas de cette maladie, aïe, ça va s'aggraver. Contre cette maladie, il faut prendre Apocalypse 2:5 en entier. Regardez. Souviens-toi donc d'où tu es tombé. Repens-toi et pratique tes premières œuvres. Sinon, je viendrai à toi et j'écarterai ton chandelier de sa place, à moins que tu ne te repentes. D'accord ? On peut aussi prendre, pour ceux qui notent, Psaume 122, 1 et Hébreux 12, 15, où la guérison est assurée. Alors, souviens-toi donc d'où tu es tombé. Souviens-toi donc d'où tu es tombé. Est-ce qu'on s'en souvient ? Est-ce que les Éphésiens s'en souviennent ? Regardez, Éphésiens 2, 1, 2. Éphésiens 2, 1, 2. Fantastique épître aux Éphésiens. Pour vous, Éphésiens 2, versets 1 et 2. Pour vous, vous étiez morts par vos fautes et par vos péchés. On est tous concernés. Dans lesquels vous marchiez autrefois, selon le cours de ce monde, selon le prince de la puissance de l'air, c'est-à-dire sous l'ennemi. Cet esprit qui agit maintenant dans les fils de la rébellion. Nous tous aussi, nous étions de leur nombre, et nous nous conduisions autrefois selon nos convoitises charnelles, nous exécutions les volontés de notre chair et de nos pensées, et nous étions par nature des enfants de colère comme les autres. C'est de là d'où les Éphésiens sont venus, et c'est de là d'où nous sommes tous venus. Est-ce qu'on se souvient qu'on est venu de là ? Regardez, toujours Éphésiens 2, verset 11. Souvenez-vous donc de ceci, autrefois vous païens dans la chair, traités d'incirconcis par ceux qui se disent circoncis et qui le sont dans la chair et par la main des hommes, vous étiez en ces temps-là sans Christ, privés du droit de cité en Israël, étrangers aux alliances, de la promesse, sans espérance et sans Dieu dans le monde. Verset 13. Mais maintenant, en Christ Jésus, vous qui autrefois étiez loin, vous êtes devenus proches par le sang de Christ. Donc, nous étions éloignés. Le Seigneur nous a sauvés. Le Seigneur t'a sauvé. Et on a oublié. Les Éphésiens ont oublié. Christ s'est sacrifié pour eux, pour nous. Ils ont oublié. Ils ont oublié. Pour eux, ça va de soi. Mais l'amour de Dieu ne va pas de soi dans la vie chrétienne. Plus on avance, plus on se dit qu'on ne mérite pas l'amour de Dieu. Plus on avance, plus on se dit que la grâce est belle. Mais réellement, on ne mérite rien. On mériterait le contraire. Nous ne méritons pas la grâce, nous ne devons pas nous habituer à la grâce. Je vous disais hier qu'il n'y a pas de fierté à être chrétien. Parce que si nous sommes sauvés par grâce, c'est parce qu'il n'y a pas d'autre moyen. Nous ne pouvons pas mourir pour nos propres péchés, nous ne pouvons pas nous sauver nous-mêmes. Il faut que le Seigneur envoie son Fils qui meurt pour nous, pour que nous soyons pardonnés. Donc, nous devons remercier le Seigneur pour sa grâce. Et d'où le premier amour ? Où est notre premier amour ? Est-ce qu'on s'est habitué à la grâce ? Est-ce qu'on est dans une relation, on va dire, routinière ? Alors, si c'est le cas, le Seigneur donne la solution. Repens-toi. Souviens-toi donc d'où tu es tombé. Repens-toi et pratique tes premières œuvres. On peut toujours revenir en arrière. On peut toujours revenir en arrière. Il le répète même un peu plus tard, à moins que tu ne te repentes. Mais attention, notre Seigneur, et c'est là où la parole est belle, il dit tout. Si tu ne te repens pas, repens-toi et pratique tes premières œuvres, sinon je viendrai à toi et j'écarterai ton chandelier de sa place. C'est-à-dire, il nous retirera la bénédiction. Et ça sera notre faute. C'est pas une punition. Mais si on veut faire les choses par nous-mêmes, on fait les choses par quoi ? On fait les choses par nous-mêmes. Et notre Seigneur est patient. Il n'est jamais trop tard pour revenir. Si on s'est écarté, si on s'est éloigné, si on s'est lassé, et qu'on s'en rend compte, il n'est jamais trop tard pour revenir. Jamais. Souviens-toi donc où tu es tombé. Et c'est pour ça que la lecture de la parole est si importante. Que la lecture de la parole nous rappelle les bénédictions et nous rappelle aussi d'où nous sommes tombés. Parce qu'on a tendance à oublier. On oublie. On oublie d'où on est venu. On se contente trop souvent d'un service minimum. Ouais, je suis sauvé. D'accord, je suis sauvé. Mais on est sauvé par grâce pour vivre par la grâce. Donc, le premier amour, Alors, ce qu'on éprouve le jour du mariage, c'est fantastique, mais c'est pour une nuit entière. Mais c'est pour une nuit entière, d'accord? Moi, je me souviens du sourire que ma femme m'a fait. Par ce sourire, elle me disait, c'est parti pour la vie. Mais ensuite, il y en a quoi des souvenirs similaires, hein, mais justement, est-ce qu'ensuite, on se contente d'une relation un peu plan-plan? Ou bien est-ce que chaque jour, malheureusement, on a tendance à perdre ce premier amour. Et c'est dommage. Parce qu'un chrétien triste est un triste. Un saint triste est un triste saint. Une vie chrétienne terne, c'est un résultat. C'est la conséquence de. On va voir à l'église. On délaisse un peu la prière. Je suis fatigué. La Bible s'écrit petit, j'y vois pas bien. Il y a des excuses. Il y a des excuses. Et on perd ce premier amour. Mais le Seigneur est juste et il voit tout. Regardez ce qu'il dit aux Éphésiens. Il leur répète, cependant, tu as ceci pour toi, c'est que tu as de la haine pour les œuvres des Nicolaïtes, pour lesquelles moi aussi j'ai de la haine. On ne sait pas trop ce qu'étaient les Nicolaïtes, c'était en tout cas une hérésie. Donc, notre Seigneur est juste. Il ne dit pas ça pour les accabler, et le but n'est pas d'accabler tout le monde. Le but est de dire, le Seigneur sait ce qu'on fait, il en a conscience. Il a conscience que, mais, qu'est-ce qu'on a au fond de soi? Il vaut mieux donner 1 € avec amour plutôt que 1 000 € quand on a beaucoup plus. Alors, l'église, c'est 2 000 €. Mais est-ce qu'on fait les choses avec le cœur? Est-ce qu'on parle à quelqu'un parce qu'il faut lui parler? Ou bien parce qu'on a envie? Donc, ne laissons pas notre cœur s'éteindre. Verset 7. Les promesses que fait notre Seigneur pour toutes les églises sont absolument extraordinaires. Que celui qui a des oreilles écoute ce que l'Esprit dit aux églises. Si tu es chrétien, l'Esprit te parle. L'Esprit s'adresse aux chrétiens. Au vainqueur, donc celui qui aura écouté, je donnerai à manger de l'arbre de vie qui est dans le paradis de Dieu. Mais est-ce qu'on se rend compte? Il fait un reproche, il dit repens-toi, et si on se repent, mais imaginez les bénédictions associées. Je donnerai à manger de l'arbre de vie qui est dans le paradis de Dieu. Ça suppose que nous sommes dans le paradis de Dieu, on a accès à l'arbre de vie. Aucune langue ne peut exprimer la joie qu'on éprouvera à ce moment-là. Il leur fait des reproches, justifiés, mais quelque part à nous aussi. Alors, c'est pas à moi de pointer quelqu'un en particulier. Mais c'est à vous de vous demander, est-ce que je n'ai pas parfois tendance à, sinon délaisser, du moins, laisser de côté mon premier amour. Alors, il ne s'agit pas de pas avoir des loisirs, c'est pas ça. Mais c'est que, dimanche matin, aller à l'église, ça doit être une joie. Nous avons la joie de pouvoir aller dans une belle église, d'entendre la parole. Beaucoup, beaucoup de frères et de sœurs dans le monde n'ont pas cette joie. Il y en a, je vous en ai déjà parlé, je crois, dans un pays où l'église est persécutée, ils se réunissent jamais au même endroit, pour ne pas tirer attention, et ils chantent les cantiques en chuchotant. On ne les entend pas. Mais, en tout cas, Dieu l'entend. Et il y a dans ces cantiques chantés en chuchotant une foi immense, parce que eux, ils n'ont pas à se souvenir de leur premier amour. Hein. Ah, ils sont en plein dedans. Hein. Ils sont en plein dedans. Parce que ils sont dans le danger. Et s'ils tiennent, c'est parce que le Seigneur est avec eux. Donc la question de se souvenir de leur premier amour n'existe pas, puisqu'ils sont en plein dedans. Ils sont dans leur premier amour. Alors que nous, qui ne sommes pas persécutés, c'est quelques moqueries de temps en temps, éventuellement, mais on ne sait pas grand-chose. On a tendance à oublier. Nous avons tendance à tomber dans la routine. On a accès à la parole. Bible de poche, Bible à gros caractères, Bible en ligne, Bible sur le portable, Bible d'études en veux-tu en voilà. Et on a cette chance, mais ne pas lire la Bible, quelque part, c'est se priver de bénédiction, se priver d'un Dieu qui te parle, et rentrer tout doucement, se lasser. Donc, n'oublions pas notre premier amour. Tu n'as pas publié la robe de mariée de ta femme. Je m'adresse aux messieurs. Moi non plus. Donc, nous n'avons pas oublié ce qu'on a éprouvé lors de la conversion. Ah, c'était fantastique. Tout d'un coup, ça y est, on est libre. Je suis sauvé. Je suis sauvé. Le Seigneur même, je suis sauvé. Le problème du péché, c'est réglé. Il est cloué sur la croix, le péché. C'est terminé. Et petit à petit, on est rentré dans une routine. Si nous avons tendance à la routine, c'est très simple. Repens-toi et pratique tes premières œuvres. Il le dit deux fois. Donc la repentance, c'est important. Si ce n'est pas le cas, ben, si on n'a pas perdu ce premier amour, il faut quand même persévérer. En Christ, la vie est riche. Puissions-nous ne jamais oublier ce premier amour. On n'oublie jamais la robe de mariée. Puissions-nous ne jamais oublier le premier amour avec le Christ, notre Seigneur, qui nous aime, qui veut qu'on le suive. Mais nous sommes libres. Puissions-nous ne jamais oublier ce premier amour. Si on a tendance à l'oublier, y revenir. Et ne jamais, jamais, jamais oublier qu'il n'est jamais trop tard. Il n'est jamais trop tard. Il n'est jamais trop tard pour se repentir. J'ajoute que s'il y a dans cette assemblée quelqu'un qui n'est pas encore sauvé, c'est peut-être aujourd'hui le jour du salut. Et c'est peut-être aujourd'hui de ressentir ce que c'est que ce premier amour. D'accord ? Christ, il est mort pour toi. Il a versé son sang pour toi. Et c'est toi qui le sauve, et c'est toi qui le veux. Puissions-nous, nous autres qui sommes sauvés, ne jamais oublier notre premier amour. Que le Seigneur vous bénisse tous. Amen.